Si on réfléchit au lien entre l'humanité et le divin dans l'Antiquité, on pourrait presque le comparer à un service d'abonnement.
Un abonnement? Ah ouais, comment ça?
Ben, un truc assez cher, plutôt fragile, qu'il faut tout le temps renouveler, et avec, disons-le, un service client un peu défaillant parce que le personnel change sans arrêt à cause de la mort.
Ouais, c'est une super analogie pour le système des prêtres lévitiques, en fait.
Exactement. Et puis, soudainement, dans cette exploration qu'on fait aujourd'hui, on découvre que quelqu'un remplace tout ce vieux système obsolète par l'équivalent d'une garantie à vie.
Une garantie illimitée, ouais.
Voilà, activée pour toujours par une seule personne. Et c'est vraiment le cœur des travaux du docteur David A. de Silva sur l'Épître aux Hébreux.
Tout à fait. Son analyse des chapitres 7 à 10 de ce texte, elle décortique comment l'auteur biblique a utilisé cette logique de la garantie à vie pour démanteler des siècles de tradition.
Et ce qui est fou dans les sources, c'est que cet argumentaire s'appuie sur deux choses totalement inattendues. D'un côté, un roi hyper obscur qui apparaît 5 minutes dans la Genèse, et de l'autre, l'histoire ultra sanglante des martyrs juifs.
Ouais, c'est un grand écart rhétorique assez incroyable. Et pour comprendre l'ampleur de ce changement, faut d'abord regarder ce qui régissait tout le pouvoir religieux à l'époque.
La généalogie.
Exactement, le pédigré. Et l'auteur de l'Épître s'attaque directement à ça en utilisant ce roi obscur, Melchizedek.
Celui de Genèse 14, c'est ça?
C'est ça. Son nom signifie « roi de justice » et comme il est roi de Salem, ça en fait le roi de paix. Des titres qui résonnent vachement avec les prophéties d'Ésaïe sur le Messie.
Sauf que le détail crucial, c'est pas vraiment ce qu'il fait dans le texte, mais plutôt ce que le texte ne dit pas sur lui, non?
Ouais, c'est le silence des Écritures. Il n'y a aucune mention de son père, de sa mère, de sa naissance ou de sa mort.
Attends une seconde. L'auteur biblique utilise littéralement un manque d'informations factuelles, genre le fait que la Genèse a juste oublié de mentionner les parents d'un gars comme preuve irréfutable de son immortalité.
Ça en a tout l'air.
C'est un tour de passe-passe rhétorique assez audacieux quand même.
C'est vrai que pour nous, ça paraît tiré par les cheveux. Mais De Silva explique que dans l'Antiquité, surtout avec un texte aussi méticuleux que la Torah, les silences sont considérés comme éloquents.
Genre, si c'est pas écrit, c'est que c'est intentionnel divinement.
Voilà. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque post-exilique, avec les livres d'Esdras et Néhémie. La généalogie, c'était pas juste pour faire joli dans un arbre généalogique. C'était la seule monnaie d'échange pour avoir de l'autorité.
Ah oui, si t'es de la tribu de Lévi, tu dois le prouver avec des papiers.
Absolument. Un prêtre lévite qui pouvait pas prouver sa lignée biologique ininterrompue, il était carrément radié du temple. La biologie, ça dictait l'accès au sacré, point barre.
Du coup, en montrant que ce fameux Melchizedek tire son autorité d'autre chose que de la biologie, l'auteur expose la fragilité de tout le système lévitique.
C'est exactement l'argument. Et ça nous amène au grand choc des titans dans la Genèse.
La rencontre avec Abraham.
Ouais. Abraham revient d'une bataille, il rencontre Melchizedek et il lui donne un dixième de son butin, la dîme. Et en retour, Melchizedek le bénit.
Et là, il y a un principe antique incontestable qui entre en jeu, c'est bien ça. Hein.
Tout à fait. C'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc Abraham reconnaît que Melchizedek est au-dessus de lui.
Ce qui est énorme vu la place d'Abraham, mais l'auteur va encore plus loin avec l'argument de Lévi, non?
Ouais, il utilise un concept fascinant. Il dit que Lévi, l'ancêtre de tous les prêtres, était encore, je cite, « dans les reins d'Abraham à ce moment-là ».
Ah, j'adore cette partie. En préparant cette plongée, je me disais que c'est un peu comme la logique des poupées russes, les matrioshkas.
Ah, l'image des poupées russes, c'est parfait pour ça.
Ouais, la plus grande poupée, c'est Abraham. Et tout ce qu'elle fait, ça engage toutes les petites poupées emboîtées à l'intérieur.
C'est exactement ça.
Donc quand la grande poupée Abraham paye la dîme et se soumet, la petite poupée Lévi et tous ses descendants prêtres y payent la dîme avec lui.
Voilà. Donc, métaphoriquement, la grande et puissante prêtrise lévitique a déjà payé la dîme à l'ordre de Melchizedek. Ça veut dire qu'elle est née, par définition, avec un statut de second rang.
Un système subordonné, en fait.
Ouais, une subordination structurelle. Et selon Di Silva, cette subordination explique pourquoi l'ancienne loi n'a jamais pu atteindre la fameuse perfection.
Il faut préciser qu'ici, la perfection, c'est pas genre ne jamais faire d'erreur au quotidien.
Non. Pas du tout. Dans l'Épître aux Hébreux, la perfection, c'est la purification totale de la conscience humaine. C'est la capacité pour un humain de se tenir devant le divin sans être désintégré.
Ce que le temple de Jérusalem, par son architecture même, montrait comme impossible.
Exactement. Tout était construit pour gérer la distance. pas pour l'abolir.
Il y avait les parvis extérieurs, ensuite le lieu saint, et enfin le saint des saints, le tout séparé par un voile massif.
Ouais, et il n'y a que le grand prêtre qui pouvait passer ce voile, une seule fois par an.
Le jour de l'expiation, ouais, avec le sang des sacrifices. Et d'ailleurs, il devait porter des petites clochettes sur ses vêtements, c'est bien ça?
Ouais, c'était pour qu'on l'entende bouger. S'il n'y avait plus de bruit, ça voulait dire qu'il n'avait pas survécu à la rencontre avec le sacré. C'était une quarantaine stricte, en fait.
C'est fou de se dire que le système maintenait une séparation absolue entre la santé et la contamination humaine.
Et ça prouve que les sacrifices d'animaux géraient juste les symptômes du péché. Ça guérissait jamais vraiment le fond du problème. Fallait recommencer tous les jours, tous les ans.
Ce qui amène l'auteur à dire que si ce système marchait, Dieu n'aurait jamais annoncé un nouveau prêtre.
Le fameux psaume 110... Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek.
Et donc l'arrivée de Jésus, qui vient de la tribu de Juda, une tribu qui n'a absolument aucune qualification sacerdotale selon la loi de Moïse, ça invalide tout le monopole généalogique.
C'est ça. Et un changement de prêtrise exige un changement total de la loi.
Mais du coup, si la généalogie ne compte plus, sur quoi repose l'autorité de ce nouveau prêtre?
Sur la solution au plus grand défaut des anciens prêtres. Ils étaient mortels.
Ouais, ils mouraient, il fallait les remplacer en permanence.
Ce qui créait une instabilité chronique. L'auteur oppose à ça l'autorité de Jésus fondée sur une vie indestructible par la résurrection.
Et quand on écoute cette histoire, on pourrait se dire que c'est juste un débat théologique un peu abstrait. Mais dans les sources, on comprend que la mortalité des prêtres, ça a causé un vrai désastre national, non?
Oh que oui, c'est même pas qu'une question de vieillesse, c'est la corruption politique. Faut vraiment regarder ce qui s'est passé au deuxième siècle avant notre ère, pendant la crise hellénistique.
Ah oui, la période où les Séleucides contrôlaient la région.
Voilà, le poste de grand prêtre est littéralement devenu une marchandise. Les sources parlent de figures comme Jason ou Ménélas.
Attends, Ménélas, c'est pas lui qui a acheté le poste au roi Antiochus?
Si, si. Le grand prêtre légitime Onias a été remplacé par des mecs qui soudoyaient les empereurs grecs. Ménélas, il n'était même pas de la lignée sacerdotale légitime et il a volé l'or du temple pour payer son pot de vin.
C'est hallucinant. Leur système de sécurité spirituelle tout entier dépendait d'hommes politiques faillibles et corrompus.
Totalement brisés.
Donc, avoir un médiateur immortel et sans péché, c'était pas du tout un concept de luxe. C'était un besoin désespéré de stabilité.
Exactement. Si ton grand prêtre est un usurpateur, est-ce que Dieu écoute encore l'expiation annuelle? C'était l'angoisse totale pour le peuple.
D'où la puissance de cette garantie à vie avec un prêtre indestructible.
Ouais, il n'a pas besoin de successeur. Il n'y aura jamais de nouveau Ménélas. Et comme il est sans péché, il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices pour lui-même avant de s'occuper des autres.
Le canal est parfaitement clair. Mais ça nous amène à la question la plus tendue de cette analyse.
Oula oui, le grand paradoxe.
Si ce nouveau prêtre a une vie indestructible, pourquoi est-ce qu'il a dû mourir en homme? Et surtout, comment une culture juive, qui interdisait formellement les sacrifices humains, en est-elle arrivée à voir dans la mort d'un homme l'expiation parfaite?
C'est le nœud du problème. La Torah rejette catégoriquement le sacrifice humain. C'était vu comme une pratique païenne abominable.
Donc, pour un lecteur du 1er siècle, lire que la mort d'un humain efface les péchés, ça devait sonner comme une hérésie totale.
Absolument. Mais De Silva montre que ça ne vient pas d'une influence païenne extérieure. C'est une évolution organique interne qui s'est forgée dans les traumatismes et les persécutions.
Ça s'est construit sur d'anciens textes, c'est ça?
Ouais, ça fusionne deux éléments. D'abord, le principe du Lévitique 17:11 qui dit que le sang expie les péchés parce que le sang, c'est la vie.
Donc c'est pas la chimie du sang en soi qui est magique, c'est la vie qui est offerte.
Exactement. Ensuite, le deuxième élément, c'est la théologie de l'alliance du Deutéronome. L'obéissance apporte la bénédiction, la désobéissance amène la malédiction, la guerre, l'exil.
Et la synthèse de tout ça, ça s'opère quand exactement?
Lors de cette fameuse crise hellénistique qu'on évoquait, autour de 168 avant Jésus-Christ, le roi Antiochus IV a persécuté les juifs pieux d'une manière atroce.
C'est la période où on forçait les gens à manger du porc sous peine de torture.
Voilà. On criminalisait la pratique même du judaïsme. Et c'est là qu'interviennent les martyrs, comme le vieux prêtre Éléazar, dans le 4e livre des Maccabées.
Son histoire est vraiment frappante dans l'analyse de De Silva.
Ouais. Éléazar refuse de manger la viande impure. On le torture, il agonise, et là, il prononce une prière révolutionnaire. Il demande à Dieu d'accepter sa mort comme une rançon pour la nation.
C'est absolument fascinant. En fait, la révolution ici, c'est que la mécanique du pardon divin a complètement basculé.
Totalement basculé, oui.
Ce n'est plus la substance physique du sang d'un animal qui apaise Dieu, C'est la qualité inébranlable de l'obéissance du martyr jusqu'à la mort.
C'est très bien résumé. La loyauté remplace le rituel.
Et dans la logique du Deutéronome, si la nation a péché et attiré la colère divine, alors cet acte de pure obéissance parfaite est capable de rééquilibrer la balance.
Exactement. Leur mort n'a pas été vue comme une défaite pitoyable face aux empereurs. C'était encodé comme une victoire cosmique.
Ça me fait penser. La source mentionne aussi un lien avec le serviteur souffrant d'Ésaïe 53, non ?
Oui, tout à fait. Ce poème sur un serviteur méprisé, écrasé pour les fautes des autres. Tout ce vocabulaire théologique de l'obéissance expiatoire était déjà là, prêt à être utilisé par l'auteur de l'Épître aux Hébreux.
Donc quand il parle de la mort volontaire de Jésus, il sort pas ça de nulle part.
Pas du tout. Il s'appuie sur la mémoire traumatique des martyrs. Jésus est présenté comme l'acte suprême de cette tradition. Une soumission si totale à la volonté divine qu'elle accomplit ce que des millions de litres de sang de taureau n'avaient jamais pu faire.
La purification définitive de la conscience.
Voilà. Le voile est déchiré, l'accès est ouvert. L'obéissance remplace le rituel. Et la vie indestructible garantit que ce sacrifice ne devra plus jamais être répété.
C'est vraiment une synthèse magistrale de la part de l'auteur biblique. Il a pris une figure mystérieuse comme Melchizedek pour casser les règles généalogiques.
Ouais.
Il a pointé du doigt les failles évidentes des prêtres corrompus. Et il a utilisé le sang des martyrs pour redéfinir comment réparer le lien entre l'humanité et le divin.
C'est fascinant, parce que ça démontre comment opèrent les véritables changements de paradigme dans l'histoire, tu vois.
C'est-à-dire ?
Ben, face à une crise énorme qui rend l'ancien système caduque, on n'efface pas le passé. On prend les traditions les plus anciennes, les textes oubliés, et on les réinterprète avec un prisme totalement nouveau pour trouver une solution.
Et ça marche. Le changement de loi s'opère.
Exactement.
Ce qui m'amène à une dernière réflexion, qui prolonge un peu les sources de notre exploration.
Je t'écoute.
Si on y réfléchit bien, l'acte ultime de médiation et de pouvoir suprême dans cette histoire, ça s'est manifesté comment ? Pas par l'exactitude d'un rituel.
Non, clairement pas.
Et pas non plus par un pedigree parfait ou par la richesse, comme essayaient de faire les grands prêtres de l'époque hellénistique.
C'est clair.
Ça s'est manifesté par une obéissance absolue et le don total de soi pour les autres.
Le sacrifice volontaire, ouais.
Du coup, comment est-ce que ça devrait redéfinir notre propre conception du pouvoir et du leadership aujourd'hui ?
Ah, vaste question.
Je me demande si l'autorité véritable, dans sa forme la plus pure, n'est pas fondamentalement sacrificielle. C'est peut-être quelque chose à méditer pour ceux qui nous écoutent.
C'est une excellente conclusion. Ça inverse toutes nos idées sur le pouvoir.
Absolument. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.